crois qu'il y a une raison simple et logique pour laquelle on comprend mal le contenu et le message de ces trois semaines appelées Ben Hametzarim, littéralement dans l'étroitesse, parce que le sujet central de Ben Hametzarim, c'est évidemment la destruction du Beit Hamikdash du Temple. Nous n'avons plus notion ni de ce qu'est le Temple, d'abord physiquement, si on n'est pas allé voir la maquette à Jérusalem, à Holy Land, on ne sait pas ce que c'est le Beit Hamikdash. Et évidemment, on a encore beaucoup moins, une notion beaucoup moins aiguë de ce qui s'y faisait, de ce qui s'y vivait. Et finalement, même au-delà, à quoi correspond tout ce rituel, si on peut appeler comme ça des corbanotes? Ça nous échappe complètement à nous dans une culture contemporaine. Ça n'a même plus de place. Alors quand on nous dit qu'il faut pleurer la destruction du Beit Hamikdash, on se demande à quoi ça correspond. Ce qui malheureusement est quelque chose qu'on comprend, c'est pleurer un être cher. Ça, on comprend. Quand on garde notre famille longtemps, quand quelqu'un perd un père, une mère, d'une espèce un enfant, des choses comme ça, on a une notion immédiate de ce qu'on a perdu. Et le pleur est proportionnel à la valeur de la personne et le lien que nous avions avec elle. Mais quand on dit de pleurer le Beit Hamikdash, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qui est véhiculé. On ne comprend pas aisément à quoi correspond également la pratique des korbanot. Et c'est pourquoi Rosh Hashanah, on tremble tous, on sait ce que c'est notre sujet. Vesamarta, Vehagecha, Sukkot, on sait ce que c'est que la joie. La liberté, on sait ce que c'est à faire Pessah. Mais le deuil du Beit Hamikdash, très très peu de gens sont capables de vivre toute la dimension du deuil de la disparition du Beit Hamikdash. Et pourtant, la notion des korbanot, des sacrifices, occupe une place centrale et essentielle dans la Torah. Quand je dis centrale, c'est pas seulement symboliquement, mais toutes les lois des korbanot des sacrifices sont contenues dans quel livre de la Torah? Dans le livre de Vaïkra. Et Vaïkra, c'est le combienième livre? Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bainvar Dvarim. Vaïkra est exactement, quand je dis central, au milieu de la Torah. Un midrash dit à propos d'un verset de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, Bitner Aremat Hitim. Ton ventre est comme un monceau de grains de blé. Et le Midrash dit Zé Torat Kohani. À quoi fait allusion le verset du roi Salomon de Shlomo Melech dans Shir HaShirim? Bitner Aremat Hitim. Ton ventre est comme un monceau de grains de blé. Makeres Zé. Quoi le ventre? Halev Mikan. Au-dessus du ventre, il y a le cœur. Vakraï Mikan. Et en bas du ventre, il y a les pieds. Donc le ventre se trouve être le lieu central géographique du corps humain. Car Torat Kohanim, ainsi ce qu'on appelle Torat Kohanim, c'est un des surnoms qu'on a donné au livre du Vaïkra du Lévitique, Mikan Shtesfarim, Mikan Shtesfarim. Il y a le Lévitique. Au-dessus, il y a Genèse, Exode. En dessous, il y a Nombre et Deutéronome. Donc quand on dit que les lois des Korbanot sont centrales, c'est pas seulement au sens symbolique, mais physiquement, le livre du milieu, le livre donc de l'équilibre équidistant entre le premier et le dernier, c'est Korbanot. C'est tellement important que tous les matins, je vous signale qu'en introduction de la prière de Shacharit et les Korbanot, et en introduction de la prière de Minha, il y a également les Korbanot. Puisque on rapporte les différents Korbanot qu'on apporte au Beit Hamikdash à l'après-midi, on rappelle dans la Torah les versets relatifs au Tamid Ben Ha'arbaïn, puisqu'on a porté, vous le savez, que deux sacrifices par jour. Tamid Shaha, le sacrifice perpétuel, le mouton qu'on a mené le matin, et Tamid Ben Ha'arbaïn, et le sacrifice qu'on a mené l'après-midi. Et donc, le matin, on lit les versets, entre autres, du Korban à Tamid du matin, et l'après-midi. C'est totalement présent dans notre vie. La Ktoret, le texte de l'encens, on le lit tous les matins, tous les après-midi. Deux fois le matin, une dans la Ptiha, une avant la fin. Et pourtant, vraiment, on peut dire que Korbanot, c'est quelque chose qui est totalement étrange.
Donc, on peut dire que quand le Beit Hamikdash reviendra vers Zéro Hachem, il y aura de
nouveau. Ah oui, tout ce qui est l'ordre du sacrifice sera complètement réhabilité. Et donc, ce qu'on essaie de comprendre, finalement, les trois semaines, c'est tout le thème central, c'est les Korbanot. Il nous faut essayer de comprendre pourquoi les Korbanot ont une place tellement essentielle, quel sens ça. Et donc, une fois qu'on aura compris ça, on aura compris pourquoi on pleure. Imaginez que quelqu'un, il a un bijou de famille qui a une valeur immense. Lorsqu'il l'a perdu, il le pleure, parce qu'il sait ce qu'il a perdu. Encore une fois, le pleur est lié à la valeur de l'objet perdu. Et peut-être qu'en comprenant mieux le sens des Korbanot, on comprendra mieux pourquoi il faut pleurer, pourquoi on pleure la disparition du Beit Hamikdash, et donc le contenu essentiel du Beth Amigdash qui était l'organisation des corbanes des sacrifices. Avant cela, on va revenir à une considération d'ordre plus général. Il y a une question essentielle qui a agité l'esprit de tous les philosophes et qui continue à agiter l'esprit des philosophes, c'est celle de la réalité humaine. Je ne vais pas entrer dans ce débat, qu'est-ce que c'est que le réel? Est-ce que ce que nous voyons, c'est du virtuel? Est-ce que nous sommes dans la réalité? Est-ce que nous sommes dans un domaine du rêve? Il y a mille réponses à cela. On va pas faire l'histoire du réel et du pas du réel. Mais nous les juifs, comment on définit le fondement de la réalité humaine? La réponse, elle est simple. La réalité humaine, elle n'existe que par rapport au lien qui nous attache à cada jour. Je t'en prie. Et la réverbération est puissante. On est vraiment dans un pays de culture chrétienne, rien à faire. Hein. Donc, la réalité humaine, elle ne trouve son fondement que dans le lien entre l'homme, la femme, donc l'être humain, et Akadosh Baruch Hu. Dès lors que ce lien disparaît, en tant que tel, l'homme est ravalé au rang de l'animal. L'animal, il a une place utile dans le fonctionnement du monde, dans l'organisation du monde, mais elle n'est pas essentielle. C'est-à-dire que si demain les animaux disparaissaient, il y aurait un problème au niveau de la chaîne écologique, mais fondamentalement, on deviendrait des végétariens. Mais l'ordre cosmique du monde n'en serait pas pour autant bouleversé. Ce qui bouleverserait l'ordre cosmique du monde, c'est la disparition de l'espèce humaine. Si tout subsiste, mais que l'espèce humaine disparaît, le monde n'a plus de sens. Mais l'être humain en tant que tel n'a de sens lui-même que dans la mesure où il a un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et évidemment, plus nous cultivons ce lien avec Hachem, plus on est homme, on se dirige vers le modèle qui dépasse l'homme, le malach, et moins on entretient, on vivifie ce lien, évidemment, notre stature humaine, elle diminue, et c'est plus du domaine de l'animal que nous nous rapprochons. J'ouvre une parenthèse pour la refermer, ça me rappelle un verset qui est rapporté dans le livre des Tehillim. Tavnitam keshor ochel esev. Il y a un verset dans le Tehillim qui dit que la forme, le visage de l'être humain, les mécréants, on parle des mécréants, ceux qui sont loin de la Torah, il est comme le taureau qui broute l'herbe des champs. Bon, dans la culture occidentale, quand on veut dire quelqu'un qui vaut rien, qui n'est pas intelligent, on dit qu'il ressemble à un âne. C'est un âne quand on veut insulter quelqu'un. Oui. D'ailleurs, dans les écoles de la République française de Jules Ferry, ça, on ne l'a pas connu, mais il fut un temps quand on punissait un enfant, on mettait au coin de la classe, vous vous rappelez de ça? Vous avez vu, peut-être vécu ça, on mettait un bonnet d'âne sur sa tête pour vous dire l'âne de la classe, c'est cet enfant. Et dans le livre des Tim, ce n'est pas un âne qu'on a choisi. Au contraire, Issachar Hamor Garem. Issachar, qui est l'homme de la Torah parmi les 12 tribus, est un âne qui a des os gros. Issachar Hamor Garem, c'est un âne aux gros os, parce que l'âne, il a une force de supporter une charge plus lourde que lui-même. L'homme de la Torah, c'est celui qui supporte plus que la condition humaine ne peut supporter. 613 commandements qui organisent toute sa vie. C'est Fouet Hamor Garem. A l'inverse, David Amer, Shtavnitam, Keshor, Ochel Esev. Il ressemble, le mécréant, il ressemble à un taureau qui boucle l'herbe des champs. Pourquoi? J'ai lu un jour une très jolie explication, je vous la livre, justement par rapport à ce lien de l'homme à Hachem qui le rend homme et de le fait de la distance qu'il prend avec Hachem qui le rend animal. En fait, ce maître faisait remarquer la chose suivante. Le seul animal qui est en station debout, c'est l'homme. Même si le singe y ressemble, il passe son temps sur les lianes, il marche à quatre pattes, le seul qui marche vraiment sur ses deux pieds, c'est l'homme. Et la station debout, elle a un sens. C'est que dans l'ordre dans l'ordre de la verticalité, en haut, il y a le cerveau, au milieu, il y a le cœur, et en dessous, il y a le foie. Vous savez que c'est trois organes qui symbolisent trois choses. La tête, elle symbolise l'intelligence. Le cœur symbolise le siège des sentiments. Et le foie, qui est entièrement du sang, on ne le cachérise pas par le sel, mais on le cachérise par... Comment cacherise un foie? Madame, qu'on cache de votre foi, que par le feu, on le fait griller. Il a tellement de sang qu'il n'y a que le feu qui peut faire sortir le sang. Alors que toutes les autres parties de l'animal, c'est le sel qui fait sortir le sang. Donc c'est l'animalité. L'être régnant, c'est celui qui a une intelligence qui domine. Donc au-dessus, il y a l'intelligence qui domine le sentiment et l'instinct de vie. D'accord? Mais si vous faites l'inverse, si c'est les instincts qui commandent les émotions et qui commandent l'intelligence, c'est plus un homme. D'accord ? Mon intelligence, elle me dit de faire ce qui me construit. Et mon animalité, elle me dit ce que j'ai envie. Ce qui souvent peut me détruire. Vous avez des gens malades du diabète. Le médecin leur interdit formellement de consommer des aliments sucrés. Qu'est-ce qu'ils font ? Comme ils craquent, ils mangent des aliments sucrés. Qu'est-ce qu'ils finissent ? Ils finissent par mourir.
Je refais des injections d'insuline.
Non, je ne parlais pas de vous, je ne savais pas. Je parle aussi dans ma famille, j'ai une personne qui est très proche qui est diabétique et je sais combien la rigueur est nécessaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un animal qui broute l'herbe des champs ? On a dit que l'être humain, en station verticale, il a l'intelligence, la tête qui domine le cœur, siège des émotions, et qui domine le foie, siège de l'instinct. Un animal, quand il est à quatre pattes, il a tout sur une ligne horizontale. Il a le cerveau sur la même ligne que le cœur, sur la même ligne que le foie. Et quand il broute, qu'est-ce qui se passe ? La ligne du cerveau va passer en dessous de la ligne du cœur et du foie. Ce qui veut dire qu'il va assujettir et influer son intelligence par rapport à ses émotions et à son instinct. Ça veut dire que le mécréant, il ressent pas seulement un animal. Un animal qui broute, parce que quand il broute, il a la tête baissée. Et donc, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de son esprit ? Il y a ses émotions et son instinct animal. Je trouve cette image extrêmement, extrêmement parlante, extrêmement jolie. Et c'est ça, le lien de l'homme à Hachem. C'est ce lien qui valorise évidemment la réflexion, la méditation, l'intelligence, dont le but est de maîtriser les émotions qui elles-mêmes alors maîtrisent l'instinct. Donc ce lien à Kadosh Baruch Hu, il est le fondement de notre existence. Je voulais vous lire un texte du Rambam. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, hein. C'est pas une conférence de magistrat.
Il était égyptien.
Hein, voilà. Le Rambam était égyptien. Non, il est né en Espagne, il a vécu en Égypte. Hein. Il était le médecin du grand vizir du Caire.
Il y a dans le vieux Caire, il y a la synagogue de Maïmonide.
Qui s'appelle Maïmonide.
Et il officiait là.
Il priait dans cette synagogue.
Dans cette synagogue.
Donc, historiquement,
c'est la plus vieille d'Égypte.
Très émouvant de savoir ça. Très émouvant. Donc, le Rambam a écrit bien sûr un commentaire sur la Mishnah. Et dans son commentaire d'introduction, dans l'introduction du commentaire de la Mishnah, voilà ce qu'il dit. Ha'adam, l'homme, kodem shiaskil v'eda, avant qu'il n'atteigne le stade de la connaissance et de la réflexion, ou nechav kabehema, il est considéré comme un animal. L'onivdal mishar mina hayot et la bigayot. La seule chose qui différencie du règne animal, c'est évidemment sa faculté de penser. Shuhai baligon, il est vivant, capable de réfléchir. Quel type d'image est-il capable de générer à travers sa réflexion ? L'etsayer nafsho ahdut akadosh baruch hu, il est capable d'imaginer que Dieu est un. Et ce qui vont donc va engendrer tous les devoirs, les implications que la croyance en un Dieu un peut générer. Un homme qui n'est pas capable d'être le maître de ses instincts, mais qui se laisse conduire par les instincts, se rapproche de l'animal. Un être humain qui est capable de dominer, de maîtriser, de domestiquer ses instincts, à ce moment-là, il mérite pleinement le titre d'être humain. Et il dit, celui qui est complètement livré à ses instincts va baigner dans ce que les Grecs appellent le hulé. Alors qu'est-ce que c'est que le hulé ? C'est aussi une notion qu'on retrouve chez Hazal. C'est une matière informe. Le hulé, c'est la matière première qu'Akadosh Baruch Hu a créée, une matière informe. Et à partir de cette matière informe, qui est donc la matière originelle du monde, Hachem a formé justement l'être humain, l'animal, les astres. Et disent nos haramim, nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est qu'une matière informe, parce que pour nous, la matière, elle est toujours présentée sous forme organisée. Vous voyez ? La matière telle qu'on la connaît, c'est une pierre, c'est un nuage, c'est de l'herbe, c'est un animal, donc la matière, elle est organisée. Mais il existe à l'origine une chose que nous ne connaissons pas, qui était la matière informe. Ça veut dire, d'après le Rambam, celui qui est totalement livré à ses instincts ne mérite même pas encore le titre de matière organisée. Il est donc réduit littéralement à un néant absolu. Voilà ce que c'est que celui qui a perdu le lien avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il y a un texte qui est devenu très à la mode dans notre communauté il y a quelques années. C'est ce texte qu'on appelle Perek Shira. Je ne sais pas si vous connaissez le Perek Shira. C'est un vieux texte. Il y a comme ça des textes qu'on exhume, qui reprennent de la valeur, qu'on a oublié, dans lequel les sages disent que chaque animal, quel qu'il soit, il chante tous les jours une louange au Créateur. Tous les jours. Et nos maîtres ont recensé un certain nombre d'animaux, et en face du nom de chaque animal, ils ont mis un verset tiré de la Torah, des prophètes, des Tehillim, dans lequel est exprimé le contenu du chant de chaque animal. C'est un texte très intéressant, très riche de signification sur lesquels on va s'attarder. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un animal y chante la louange d'Hachem? Encore une fois, la louange qu'un être, même animal, exprime à Hachem, il témoigne de ce qu'il existe un lien entre celui qui chante la louange et celui qui reçoit la louange. Ça veut dire que même l'animal, pour qu'il puisse exister, a besoin de ce lien. Sans lien avec Akadosh Baruch Hu, le moustique, le lion, l'éléphant, l'hirondelle, elle disparaîtrait. C'est pourquoi tous les jours, pour dire qu'il existe, il faut qu'il montre qu'il a un lien. Et le lien naturel de l'animal avec Akadosh Baruch Hu, c'est le chant, la louange qu'il exprime. Et si c'est vrai pour un animal, ça voudrait dire qu'un homme qui ne prie pas, n'étudie pas la Torah, qui ne fait pas les mitzvot, a coupé son lien, il n'existe plus. Donc pour nous, le fondement de ce que j'appelle la réalité humaine, elle n'existe qu'à travers le lien qui nous lie, nous, à Akadosh Baruch Hu. Je vous pose une question. Quelle est la nature du lien? Quel est le sentiment qui nous lie à Hachem? Comment vous répondriez à cette question? Bon, d'accord, on comprend maintenant que tous les êtres humains sont liés à Hachem. De quelle nature est ce lien? Je vous pose une question. C'est pas un piège, une question, chacun peut répondre. Qu'est-ce qui nous lie? Quel est le sentiment qui nous lie à Hachem?
La crainte.
Ou bien, on l'a? L'amour. Vous avez répondu tous les deux les bonnes réponses. La première nature du lien, c'est Yira, la crainte. C'est le premier stade incontournable. On ne peut pas aimer d'abord Hachem. On doit passer, disent nos sages, par le stade de la crainte. Et une fois qu'on a acquis cette dimension de la crainte d'Hachem, alors on peut se hisser au-dessus pour atteindre le niveau de l'âme. Je voudrais vous livrer ici un enseignement du Shla Akadosh. Vous entendez pas du Shla Akadosh? Le Shlomo Hatabrim, le Rav Israël Alevi Horovitz, qui était un grand, grand kabbaliste du XVIe siècle, qui a écrit une œuvre fondamentale qu'il faut connaître, et il faisait remarquer la chose suivante. Que tout le monde voit à peu près le mot Yir'a, Yud Resh Aleph He, qui veut dire crainte, et ensuite le mot Ahava Aleph He Bet He, qui veut dire amour. Le Shla Kadosh, je répète, il faut d'abord acquérir Yir'a, la crainte, pour ensuite conquérir Ahava. Et lui, le Shla Kadosh fait remarquer quelque chose d'extraordinaire, simple mais extraordinaire. Il faut les yeux d'un tzaddik pour voir ça. Les deux dernières lettres de Yir'a, c'est quoi? Allez, fait. Vous remarquez que quoi? Que c'est les...
C'est les
deux premières lettres de Hava. Ce n'est que en faisant, en acquérant Yir'a, que je commence à attraper le pied de la Ahava. En ce sens, elle s'enchaîne. Yir'a, Ahava. D'accord? Donc, la nature du lien entre nous et Hachem, le lien ultime, c'est Ahava. Aimer Hachem. Il y a des gens mariés parmi nous. Je vous pose la question, comment un mari montre à sa femme qu'il l'aime?
Par déduction de ce que vous venez de dire, par la crainte.
Vous craignez votre femme?
Non, enfin,
ouais,
non,
si vous...
liens,
non, c'est pas une question piège. Il faut craindre sa femme, mais pas pour les mauvaises raisons qu'elle gère. Non, mais c'est une question très simple. Comment un mari peut témoigner de son amour à son épouse? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas marié qui a donné la réponse. Vous n'offrez pas ce cadeau à vos femmes, mes yeux. On manifeste notre attachement à quelqu'un en offrant des cadeaux. Un jour, un, un juif, vous croyez en Dieu, oui, vous aimez Hachem, oui. J'ai fait une bidote, il me dit, moi j'aime Dieu dans mon cœur. Il m'a répondu comme ça. J'ai dit, vous êtes marié? Il me dit, oui. Vous aimez votre femme? Il me dit, oui. Vous l'aimez dans votre cœur? Il me dit, non, de temps en temps, il faut bien que j'achète un bouquet de fleurs. Dit, alors Hachem aussi, ça ne se suffit pas de l'aimer dans son cœur. Dans le monde qui est le nôtre, c'est un monde de l'expression. Nous devons exprimer des choses. Les cadeaux que nous offrons à ceux que nous aimons sont le signe tangible et palpable de l'amour que nous leur portons. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut comprendre très simplement la notion du cadeau d'anniversaire. Au fond, lorsque quelqu'un a un an de plus, s'il y en a un qui doit remercier ses créateurs du monde qui lui a prolongé la vie. Mais pourquoi les gens font un cadeau le jour de l'anniversaire? Pour montrer que nous aimons beaucoup celui qui continue à être et nous souhaitons qu'il soit encore près de nous longtemps. C'est ça le sens du cadeau. Le cadeau exprime l'idée de ce que nous aimons ceux qui sont avec nous. Alors pourquoi le jour de la naissance? Parce que ce jour, l'individu est apparu. En vérité, quand on aime vraiment quelqu'un, on devrait lui faire des cadeaux tous les jours et dans chaque jour, toutes les secondes, toutes les heures, toutes les minutes. En vérité. Mais on n'a pas cette force. Pourquoi je vous dis ça? Quand on dit qu'on aime Hachem, ça ne suffit pas. On doit être capable de faire des cadeaux à Hachem. C'est quoi des cadeaux? De réaliser des actions ou des actes qui, par leur nature, vont témoigner que nous aimons Hachem. D'ailleurs, nous avons bien ce rôle de cette relation d'homme à femme mariée avec Hachem, puisque Yitzhak Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'était la naissance du peuple juif. Et sur le mont Sinaï, il y a eu le mariage entre Hachem et le peuple d'Israël. Vous savez que dans certaines communautés, le jour de Shavuot, qu'est-ce qu'on lit? On lit une sorte de Ketouba. C'est un texte qui a été inventé par nos sages, qui reprend la Ketouba classique, dans lequel on parle du mariage spirituel, bien sûr, évidemment, entre le clan d'Israël et le peuple d'Israël. Il reste qu'en matière de cadeaux, il y a deux sortes de cadeaux. Dans la Torah, il y a deux mots pour dire cadeau. Il y a le mot matana et il y a le mot doron. Vous avez déjà entendu ce prénom en hébreu, Doron? C'est le prénom d'un enfant. Doron veut dire cadeau. Alors, puisqu'il y a deux mots, c'est donc qu'il y a deux nuances. Quelle est la différence entre Matana et Doron? Matana, c'est un cadeau que je qualifierais de nature sociale. Lorsque, en fin d'année, le comité d'entreprise il fait acheter des cadeaux pour les offrir aux employés, c'est Matana. Ça ne veut pas dire que l'entreprise élève ses employés. C'est-à-dire qu'avoir leur thème, c'est une sorte de mondanité, on va leur montrer qu'ils sont importants. Donc c'est le style de cadeau d'ordre avec un lien social. Et comme on l'a dit, il y a un cadeau qui est une nature beaucoup plus profonde, c'est le cadeau qu'on fait pas parce que c'est un cadeau qu'il faut faire. C'est-à-dire, comme si vous êtes dans un mariage, ou une bar mitzvah, vous faites un cadeau. Vous n'êtes pas spécialement proche des gens, mais ça ne se fait pas de ne pas laisser un cadeau, parce que le cadeau montre même l'importance. Mais c'est pas fondamentalement l'expression de ce qu'on aime cette personne-là. À l'inverse, qu'on a dit, un mari qui offre un cadeau à sa femme ou un père qui offre un cadeau à ses enfants, là, naturellement, c'est pas matana, c'est doron. Ce cadeau exprime le lien affectif extrêmement puissant qui nous lie à la personne, et ce cadeau est en fait l'expression, la révélation de l'affection ou de l'amour que nous portons à cette personne. D'accord? Demandez à une femme mariée de vous vendre sa bague de mariage, vous pouvez lui donner 1 million d'euros et vous la vendra pas. Pourquoi? C'est vrai qu'en soi, ce petit anneau en or, il vaut 30, 50 euros. Mais ce n'est pas seulement le métaux précieux qu'il y a dans cette bague auquel elle est attachée. Elle est attachée à toute la vie. Je ne sais pas, imaginez une personne qui est mariée depuis 20 ou 30 ans, il y a 30 ans de vie commune qui sont contenus dans cette bague. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça on l'appelle pas matana. Ce n'est pas un cadeau avec un lien social. Mat, c'est doron. C'est un cadeau avec une charge affective puissante, très forte, incommensurable, inexprimable. D'ailleurs, et pour nous, Rabotai, si je peux dire, les cadeaux que nous faisons à Hachem, entre autres, ce sont les mitzvot. Et de la même manière qu'il existe une différence entre le cadeau matana d'ordre social ou le doron, le cadeau d'ordre affectif, Vous verrez par exemple que les nations du monde, elles aussi, elles ont reçu les mitzvot. Combien de mitzvot ils ont reçu les mitzvot, les nations du monde? Il y a combien de commandements? Les fameux Shiva mitzvot béni noir, les sept noaïdes. Ne pas tuer, ne pas voler, pas d'adultère, pas de blasphème, pas consommer la chair d'un animal vivant. Nos sages disent que ça c'est matana. Les mitzvot qu'Hachem a donné aux nations du monde, c'est pas pour exprimer qu'il les aime comme Israël. Les mitzvot sont une manière de régir la société. Imaginez-vous, bon, tout le monde reconnaît le droit de propriété, n'est-ce pas? Tout le monde reconnaît le droit de la propriété. Ça veut dire quoi la propriété? Nous avons tous une maison avec un jardin, et autour de cette maison, ce jardin, il y a une clôture. Nous convenons tous de la loi suivante, n'est-ce pas? Nous sommes en train de fonder la société humaine, hein, on est quelques heures après la création du monde, il faut qu'on mette en place un système qui permet à tout le monde d'exister. Je conviens que jusqu'à la clôture, je fais ce que je veux dans les champs et dans les forêts. Mais à partir du moment où il y a une clôture qui est posée, tout ce qui est à l'intérieur de la clôture vous appartient. Et que celui qui rentre et qui prend sans permission, ça sera appelé un voleur. Voilà. Le monde vient d'établir la loi de la propriété. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le respect de la loi de la propriété, le monde va devenir, ça va être le chaos. Je rentre, je sors, je guerroie, je tue, je vole, c'est fini, il n'y a plus de monde. Il faut des magistrats pour juger. Maintenant qu'on établit que quelqu'un qui prend sans permission est un voleur, s'il vole, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'empêcher de voler la prochaine fois? Il faut le sanctionner, le pénaliser, il faut le punir. Donc on va inventer des tribunaux, on va nommer des juges, une police, des prisons. Et c'est ainsi que la société humaine va trouver un mode de vie qui rend la vie possible, parce que sans ces lois, le monde n'est pas possible. Donc les mitzvot qu'Hachem a donné aux nations du monde sont matana. Elles sont d'ordre purement utilitaire. Par contre, les mitzvot que je vous ferai donner au clan d'Israël, elles ne sont pas matana. Elles sont doron. Elles n'ont pas simplement un but utilitaire. Parce que les tefillin, si vous voulez bien m'expliquer le but utilitaire des tefillin, je vous mets mon chapeau, j'enlève, hein, je vous mets mon chapeau. Évidemment, ça n'a pas un but utilitaire. Le loulav, etrog, arabe et hadas, les quatre espèces végétales qu'on prend sous côte, ça n'a aucun but utilitaire. Prenons le chauffard. C'est écrit que le jour de Rosh Hashanah, quand le chaleur tzibour, il prend le chauffard, il sonne dedans, une personne qui n'est pas juive, qui est extérieure, et il voit un homme sonner dans le chauffard, il a entendu un homme qui a sonné dans une trompette, il a fait un bruit. Dans Chazal, c'est écrit qu'un des buts pour lequel nous sonnons du chauffard, il y a des symboles très très profonds dans la sonnerie du chauffard, c'est très très important, comme chaque mitzvah. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il est assis à Al-Kissé Din. Hachem est assis sur le trône de justice. Or, nous, qu'est-ce qu'on demande? D'être jugé avec justice ou avec clémence? Qu'est-ce qu'on demande? On demande la miséricorde, la mansuétude, la clémence, la rahamim. La sonnerie du chauffard, elle ébranle les cieux tout entiers. Elle ébranle à Kadosh Baruch Hu, qui se lève du trône de justice et va s'asseoir sur le trône de clémence. Et alors seulement il nous juge. Un petit bonhomme de rien du tout, qui sonne dans une corde de bélier de rien du tout, qui fait une sonnerie chevrotante de rien du tout. Mais le clan Israël a une telle importance sur les gens que ça ébranle, ça a un effet cosmique, ça traverse les galaxies, les mondes tout entiers. Ça, la voie lactée, ça traverse le monde, et encore plus que ça encore, ça arrive au trône céleste, ça ébranle le monde des anges, ça ébranle la Kadosh Baruch Hu, il se lève de qui s'est dit, il va se dire. Vous comprenez maintenant que c'est pas rien une mitzvah, ça a des conséquences et des répercussions cosmiques, véritablement cosmiques. Quand un juif il fait pas une mitzvah, c'est l'ordre du monde entier qui est ébranlé. Quand un juif il fait une mitzvah, c'est l'ordre du monde qui est affermi. Je le dis à voix basse, j'espère qu'il n'y a personne du canard enchaîné parmi nous qui va l'écrire. Mais c'est écrit dans le Talmud, c'est clair et net. Quand il y a un grand malheur qui frappe le monde, c'est d'abord la faute de qui? Des juifs, sachez-le. Je ne dis pas ça pour nous accuser, je dis ça pour nous responsabiliser. Quand des juifs se comportent mal, chez eux, une avéra, une transgression, c'est pas un ordre rituel symbolique qui a été transgressé. Ça ébranle les fondements du monde. Ça peut même causer un tsunami.
Il y a une histoire que ça qui est vrai. Jean-Ré. C'est le président d'Indonésie, musulman, qui avait dit une semaine avant le tsunami que si tous les pays des nations musulmanes du monde se liguaient contre Israël, Israël serait balayé comme un tsunami. Une semaine avant.
Il a dit comme ça. Ouais. Extraordinaire. ça peut avoir effectivement d'autres fois des valeurs pédagogiques, ce qu'il y a dans le monde. Mais ce que je voulais qu'on sente et qu'on touche du doigt, c'est que les mitzvot qu'Hachem nous a donné, c'est pas matana, c'est pas purement utilitaire. Il faut savoir que ce sont des manettes de commande grâce auxquelles ou le monde mérite une bracha, une bénédiction, ou a d'une place inverse. Vous savez que, d'après les kabbalistes, le ciel est le réservoir de toutes les bénédictions. Le ciel. On va dire comme ça, de manière très très schématique. Le ciel est le signe, le réservoir de toutes les bénédictions. Le ciel est l'élément qui influe, et la terre c'est l'élément qui reçoit. C'est le récipient. Un exemple très simple. De quoi on se nourrit ? Des végétaux. Céréales, fruits et légumes. Ça pousse où les végétaux ? Ça pousse de la terre. Comment ça pousse ? Grâce. Qui a dit ? Grâce à la pluie. Le ciel est même du point de vue physique, le réservoir de la bénédiction. Il y a de l'eau. Quand l'eau, elle tombe du ciel, elle féconde la terre. Cette fécondité, elle est vraie aussi au plan spirituel. Toutes les bénédictions, la réussite dans le monde, la paix, la santé, la prospérité économique, tout vient du ciel. Les mitzvot que nous faisons sont les moyens par lesquels le peuple d'Israël fait descendre ce que les kabbalistes appellent le shefa, un influx positif qui descend du haut vers le bas. Mais, pour qu'il y ait un mouvement du haut vers le bas, il faut d'abord qu'il y ait un mouvement du bas vers le haut. C'est ce que les kabbalistes appellent it'erota d'ilteta, un réveil d'en bas qui va provoquer un réveil d'en haut. Les êtres humains, les juifs font les mitzvot, ça crée un faisceau de bénédiction, de lumière qui va s'élever vers le ciel, et à ce moment-là, ça met en marche tous les réseaux de bénédiction, et la bracha descend sur le monde. Ça, c'est vrai quand on fait les mitzvot, mais c'est vrai d'une place dans le sens contraire. Le Gaon de Vilna, pour prendre cette image, il dit que la Torah, elle accentue, elle développe toutes les forces contenues dans l'être humain. De la même manière que quand l'eau, elle tombe du ciel, elle féconde le sol, il peut pousser des végétaux nourrissants, mais il peut pousser aussi des champignons vénéneux qui tuent. Il faut que nous décidions, à travers ce que nous faisons, ce que nous voulons. D'accord ? Donc les mitzvot que Hachem nous a donné, c'est pas matana, c'est doron. Ça a littéralement une puissance cosmique qui branle le monde entier. À propos de la sonnerie du chauffard, ça me revient maintenant. Le Rav Pinkus disait que, imaginez un roi très puissant, un roi très très puissant, que le monde entier lui qui est assis sur son trône. Qui ose se frotter à lui ? Au moindre geste, il envoie ses armées, et elles vont broyer, anéantir les ennemis ennemis. Il y en a un qui peut l'émouvoir, le faire se lever de sa chaise, c'est son petit garçon. Quand le petit prince de 2 ou 3 ans, il passe à côté du roi, et il tombe par terre, tout de suite le roi il se lève, il va ramasser son fils. Le roi puissant que personne ne peut faire se lever de sa chaise, de son trône. Le clan Israël, quand il sonne du chauffard, c'est pas seulement un chauffard dans lequel on sonne. Israël, c'est le prince. C'est le seul dans le monde qui va faire lever le roi de son trône de justice, et le faire asseoir sur son trône de clémence. Mais, j'ajoute une parenthèse pour la refermer aussitôt, pour qu'une telle sonnerie elle ait un tel effet, il y a des conditions. Il faut que le chauffard il soit cachère, il ne faut pas qu'il soit fendu. Il faut que les sonneries... Vous savez qu'il y a des lois très très précises dans la sonnerie. On ne sonne pas n'importe comment. On doit sonner un certain temps, parfois on prend sa respiration, parfois on ne la reprend pas. C'est très complexe. Ne croyez pas que c'est sonnerie du joueur. C'est regard dans le chauffard, c'est très complexe. Et quand toutes ces conditions sont réunies, c'est cette sonnerie-là et pas une autre, n'est-ce pas ? Et pas une autre qui est capable d'émouvoir. Celle-là lui casse les oreilles. Ça, je l'ai déjà entendu dire, ça lui casse les oreilles. Mais la sonnerie du chauffard, elle ébranle la Kadosh lui-même et elle transforme le din en rahamim. C'est tout le symbole à Kippour de ce fil rouge dans le temple qui se transformait en fil blanc et qui attestait que Kadosh avait pardonné Christ. Maintenant, on va essayer de revenir pour conclure sur cette notion de sacrifice. On a donc dit que les 3 semaines et 3 semaines de deuil qui vont crescendo, 3 semaines de Rosh Chodesh, le jour de Tchabéab, et où nous prenons toutes les attitudes de l'endeuillé, en particulier le jour de Tchabéab, on est assis par terre, on dort par terre, on met des chaussures en toile, on ne se lave pas, on n'étudie pas la Torah, comme quelqu'un qui a perdu un proche marche pendant 7 jours, nous on le fait pendant une journée. Et pourquoi ? Parce que Beit HaMikdash a disparu, le temple a disparu, et parce que le temple, les sacrifices ont disparu. Je voudrais juste m'arrêter quelques minutes sur le sens du sacrifice. Et avant de parler de sacrifice, nous rappeler que dans le monde physique, vous le savez, il y a ce qu'on appelle les quatre règnes. Il y a le règne minéral, au-delà le règne végétal, au-delà le règne animal, et au-delà le règne humain qu'on appelle le parlant, Doran, celui qui parle, qui a la parole. Dans le règne minéral, ce qu'il y a de plus beau dans le règne minéral, ce sont les métaux précieux. Hein? L'or, l'argent, avec lequel d'ailleurs on fait des bijoux. Les bijoux, autant que je sache, ça ne se mange pas, ça ne nourrit pas son homme. Au contraire, ça dort au fond des coffres de banque, parce qu'on a peur de se les faire voler. Mais il reste que le bijou est important, en grande part parce qu'il est capable de porter en lui toute la charge affective que nous voulons exprimer et qu'on ne peut pas exprimer. Au lieu de dire tous les jours à quelqu'un qu'on l'aime, on lui offre un bijou. Et ce bijou, c'est comme un petit appareil électronique pour une puce qui toujours « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'est ça qui veut dire le bijou. D'accord ? Au-delà du minéral, il y a le végétal. Dans le végétal, on a vu par exemple, je vais pas tourner la kétorette, de l'encens, que l'encens était une poudre de végétaux de 11, il y avait 11 ingrédients qui étaient séchés, qui étaient donc moulus, ils formaient une poudre. Cette poudre était déposée sur le Misbah Hazav. Alors, puisqu'on parle du temple de Jérusalem, une petite visite guidée. Vous aviez dans le temple de Jérusalem deux autels. Le grand autel en pierre, imaginez donc une grande construction comme ça, en pierre avec une pente douce, sans escalier, hein, c'est une pente droite. Et le Kohen, il devait marcher en mettant le talon contre les orteils, il ne devait pas écarter les jambes, il montait comme ça. Hein, vous voyez, ça c'est les pieds qui se... Comme quand on fait la Hamida en arrière, on va en arrière. On met l'orteil contre le talon, on n'écarte pas les jambes, on fait la même chose que le Kohen. Donc le Kohen y montait, et sur l'autel en pierre, il faisait brûler les animaux qu'il avait sacrifiés. Dans une partie plus intérieure, il y avait un autel en bois qui était plaqué or, tout entier, et sur cet autel, on appelle Misbah Hazav l'autel en or, il y avait des charbons de bois qui brûlaient, et tous les jours, le Kohen, il y avait toute une manière de faire, il déposait cette poudre végétale de l'encens, et il faisait brûler, et cet encens y montait en fumée. Et le maître dit que l'encens qui était le plus réussi, c'était un encens qui montait droit comme un fil, sans volute et sans détourneau. Le cadeau végétal qu'on fait à Hachem, il est fait par exemple à travers l'encens. Le Hay, le troisième cadeau, la troisième catégorie, le vivant, c'est évidemment quoi ? L'animal. Nous arrivons maintenant à la notion du sacrifice. Alors pourquoi le sacrifice est quelque chose de tellement omniprésent dans la vie des Juifs à travers le Beit Hamikdash quand il existait ? Pourquoi c'est quelque chose d'important ? Parce que, déjà, dire une chose classique, vous savez que sur les sacrifices, beaucoup, beaucoup de commentaires, on n'imagine pas combien de commentaires ont été écrits là-dessus pour comprendre pourquoi tel sacrifice, pourquoi tant de sacrifices, pourquoi comme ça et pas autrement. Mais la grande idée générale est la suivante. Un être humain qui faute, même par inadvertance, puisque en général, les sacrifices étaient apportés sur un shogeg, quelqu'un qui avait transgressé involontairement le Shabbat, dimanche, il allait au Beit Hamikdash, il offrait un korban, hatat, un sacrifice expiatoire sur une faute commise par inadvertance. Par contre, quelqu'un sort de la salle de bain des toilettes, comme ça arrive à tout le monde, qu'est-ce qu'il fait ? Il éteint la lumière, il oublie que c'est Shabbat. Ça, c'est une faute béchogeg, par inadvertance. Sur ça, on apporte un korban. Mais quelqu'un qui grille sa cigarette en roulant sa voiture Shabbat, il fait teshuva. En tout cas, sur les transgressions volontaires, il n'y a pas de sacrifice. La teshuva peut se faire, mais on n'apporte pas de sacrifice. Donc on voit que même si on ne fait pas une inadvertance, théoriquement, tout fauteur, dit la Torah, aurait dû être condamné à mort. Il est impensable, et ça c'est de toute manière ce que je vais vous dire, est une notion qui nous dépasse tellement qu'on a peine à la conceptualiser, à la concevoir. On a peine à comprendre qu'un ordre venant du Créateur du monde devrait jamais transgresser. Il est impensable qu'un être humain puisse transgresser un ordre venu d'Hachem. Parce qu'on devrait être habité d'une telle crainte et d'un tel amour pour Hachem en permanence en nous, que même au plus profond de notre sommeil, de manière inconsciente, nous ne devrions pas fauter. Théoriquement. Simplement, ça demande un travail sur soi colossal, que tout le monde ne fait pas. On est tous en voie d'eux. Mais l'homme idéal, c'est celui qui, même Béchogeg, même dans l'inadvertance et l'involontaire, ne faute pas. Et en réalité, la faute, dans sa phase ultime, elle est toujours synonyme de mort. Je voudrais m'expliquer là-dessus. Très souvent, les gens éloignés de la Torah considèrent que les mitzvot, qui touchent, comme vous le savez, à tous les domaines de la vie, ont une nature coercitive. C'est-à-dire qu'elles sont un carcan qui pèse et qui empêche l'homme d'être libre. La Torah, elle me dit comment je m'habille, elle me dit même comment je me lave, vous savez, même dans se laver, il y a un comportement. On lave d'abord la tête, on part toujours du plus haut vers le plus bas. Et dans les mains, par quel moment on commence ?
Droite.
Par la main droite. Il y a même dans ça, il y a un ordre. Dans ma manière de manger, la Torah, elle se mêle. Tu manges de ça et pas de ça. Et même ça, tu le manges à telle heure et pas à telle heure. Et dans telle heure. Dans ma vie conjugale, la Torah... Oui, ça c'est apporté ça. Dans les poskim, pas le journal, vous avez raison, dans les poskim. Et dans le moindre détail, la chose la plus personnelle, la Torah, elle dit pourquoi. Est-ce que la Torah est venue se mêler ce qui ne la regarde pas? Non. Il faut comprendre que les mitzvot qui nous sont donnés. D'ailleurs, comment en hébreu on dit une faute? On dit avera. On ne dit pas péché. On ne dit pas c'est péché. C'est un mot très chrétien, c'est péché. On dit c'est une avera. Le mot avera vient de quel verbe? La'avor. La'avor signifie passer outre. Alors ça veut dire quoi, avera? Écoutez bien. J'ai dit tout à l'heure que quand on se promène dans les bois pour aller à l'accueil avec des champignons de Tignes ou de Paris, si vous êtes un expert, vous faites attention, mais si vous n'êtes pas un expert, vous allez chez les pharmaciens. Le pharmacien vous dit ça, c'est des bolets, ça c'est des cèpes, ça c'est des champignons, vous pouvez manger. Ça c'est des anamites, tu mouches, surtout c'est venu, ne mangez pas. Donc, on doit savoir distinguer qu'est-ce qui, dans l'ordre de la consommation, fait vivre, ou à de l'espèce, qu'est-ce qui tue. Vous avez dit la Torah, toute la vie, c'est la science du comportement. Ce que la halakha nous dit, c'est la limite de comment un comportement est construit un homme, et la avera veut dire, une fois que j'ai passé la limite que la Torah m'a donnée, quand je choisis un comportement différent de la Torah, quand je suis envers, quand j'ai passé la limite fixée par la halakha, le comportement ne va pas construire l'homme, chas v'shalom, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le détruire. La halakha n'est pas un carcan de loi qui étouffe l'homme, chas v'shalom. La halakha, c'est la manière à travers laquelle les sages disent dans tous les comportements de la vie, quel qu'il soit sans aucune exception, quel est le comportement qui construit l'être humain et construit donc le monde. Avera, une fois qu'on a passé la ligne du assour, on rentre dans un domaine qui détruit le monde. C'est ça la halakha. La halakha dit qu'est-ce qui construit l'être humain et le monde. La avor, passer outre, c'est rentrer dans le domaine qui détruit l'individu et qui détruit le monde. C'est ça la avera. D'accord? Donc la avera, elle est destruction de l'individu. C'est quoi la phase ultime de la destruction? C'est quoi la fin de la destruction d'un homme? C'est la mort. C'est en ce sens que je dis tout à l'heure que la avera est si synonyme de mort. Quelque part, transgresser la race, c'est mourir à petit feu. Jusqu'au jour où il s'est complètement détruit. Le korban, vous savez que quand quelqu'un a porté un korban, il y a plusieurs choses à accomplir dans le korban, dont la smicha. Je vais peut-être me lever pour ceux qui sont un peu loin. Qu'est-ce que c'est que la smicha? Le Kohen, il prenait le mouton que M. Réhouven avait offert parce que la veille du Shabbat, il avait transgressé le Shabbat, involontairement. Donc, il y a le mouton qui est sur ses pattes. Réhouven, il met ses deux mains sur la tête, ce qu'on appelle smicha. Il appuie ses deux mains sur la tête du korban, le sacrifice. Le Kohen, il mettait ses deux mains par-dessus, il appuyait sur les mains du fauteur, de Réhouven. On va l'appeler du transgresseur, la avera, transgresseur. Et pourquoi? Parce que symboliquement, comme on l'a dit que fauter, c'est synonyme de mort, il y avait un transfert de la peine de mort qui aurait dû s'appliquer sur Réhouven, qui va s'appliquer sur qui? Sur l'animal. Qu'est-ce qu'on fait à l'animal? On lui tranche la gorge. On le coupe en morceaux, suivant certaines catégories de sacrifices. Rola, on le brûle entièrement. Je l'ai mis d'autres sacrifices, c'était une partie pour le propriétaire, une partie pour le coin, une partie pour Hachem. En tout cas, qu'est-ce qu'il voyait le bonhomme? Réhouven. Il va comprendre l'animal qu'on lui tranche la gorge, tout le sang qui gicle. On voit qu'on le coupe en morceaux. On voit qu'on le fait brûler sur l'autel. Hazal disent que tout ça, c'est ce qui aurait dû arriver au corps de l'homme. En fait, l'homme, par transposition, est en train, c'est une leçon pédagogique violente et agressive, mais nécessaire. On est en train de regarder à quoi la Vera, elle t'amène. Regarde la transgression du Shabbat. Regarde, je parlais tout à l'heure de ce que les mitzvot, elles ont un impact cosmique. Regarde, quand un juif transgresse Shabbat, le chamboulement, le bouleversement dans les mondes célestes que ça provoque. Regarde, regarde toi-même ce que tu deviens. Ce sang qui est versé, ce corps qui est détruit, carbonisé, réduit à néant. C'est à ça, disent Hazal, que la Torah, elle a voulu faire prendre conscience au transgresseur quand il se voyait, par transposition, disparaître dans la fumée du feu qui consumait les autres. Sarah Botay, c'est le sang du sacrifice. C'est offrir le haï, c'est offrir le vivant, parce que de cette manière-là, on voit d'abord, un, ce que c'est que l'importance de la vie, et comme cette vie, elle se vit ici elle-même à travers une sorte de la Torah. Vous savez que l'équivalent du sacrifice, c'est le jeûne. Pourquoi est-ce que le jeûne, c'est l'équivalent du sacrifice? Parce qu'en jeûnant, n'ayant pas d'apport calorifique, on fait brûler notre graisse et on consomme l'énergie du sang. Qu'est-ce qu'on offre dans l'animal? La graisse et le sang, d'accord? Puisque la zrika, on prenait du sang et on l'aspergeait. Vous savez que, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, ce serait trop long, que le fameux hôtel en pierre dont je vous ai parlé, c'était donc une construction carrée en hauteur avec une pente douce, et au milieu de cette construction, il y avait un fil rouge, on appelait Houch el Sikra. Et suivant les sacrifices, on aspergeait le sang au-dessus ou en dessous de cette ligne rouge, et sur les sacrifices, ça dépendait des coins de l'hôtel dans lesquels on dirigeait le. Donc tout un code très 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 précis sur la catégorie du sacrifice, comment le sang était aspergé et lui était offert. Mais en tout cas, cette notion donc de sacrifice, de jeûne, j'en reviens à cela, en jeûnant, de la même manière qu'en offrant un sacrifice, c'est sa graisse et son sang qui sont offerts, celui qui jeûne, on dit que le jeûne c'est l'équivalent d'un corban, on offre non pas cette fois-ci la graisse et le sang de l'animal, c'est sa propre graisse et c'est son propre sang que l'on offre. D'ailleurs, les gens qui veulent faire le régime, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne mangent pas, c'est la diète. Jeûner, c'est faire la diète, parce qu'en jeûnant, on brûle sa propre graisse. Maintenant, il y a un quatrième stade. Au-delà de l'animal, on a dit, il y a le minéral, le végétal, il y a l'animal, et au-delà, qu'est-ce qu'il y a?
L'humain.
Il y a l'humain. Est-ce que vous vous rappelez qu'une fois dans l'histoire, il y a un sacrifice humain? Hazak. La Akedat Yitzhak, absolument. C'est un pseudo, je dis bien, pseudo-scénario du sacrifice humain. Quand je dis un pseudo, c'est d'abord... Quand Abraham a reçu l'ordre, il a pris très au sérieux. Puisqu'Abraham Avinu, c'est décrit, si on fait une analyse, c'est un texte qui mérite une étude en soi. Je vais en faire une très très brève analyse de quelques points essentiels. Quand il a dit Abraham Kahana, d'abord vous savez que quand on annonce une nouvelle difficile à quelqu'un, on ne dit jamais brutalement à quelqu'un une mauvaise nouvelle. On la dit toujours par à coup. Malheureusement, dans notre vie communautaire, on est confronté à un problème très difficile. Parfois, on a appris le décès de quelqu'un. Et puis, il faut l'annoncer à la famille, une personne qui est fragile du cœur ou très sensible. On ne dit jamais à quelqu'un, à Dieu ne plaise, un tel est décédé. On dit, vous savez, un tel est très très malade. Qu'est-ce qu'il a? Il est très malade. Le lendemain, on dit que ça empire, ça empire. La personne, petit à petit, elle s'habitue à l'idée jusqu'à ce qu'enfin, il comprenne que. D'où est-ce qu'on a appris ça?
L'inverse aussi, madame.
Oui. On n'annonce pas non plus une nouvelle trop bonne, trop brutalement. Ça me rappelle une histoire que j'ai entendue en main de France. Il y avait un juif américain de 92 ans qui a joué à l'euro million, à l'américain de million, pas l'euro million. Il a gagné 500 millions de dollars. Alors les enfants et les petits-enfants, ils arrêtent les enfants, ils ont dit, si on dit ça à papy qu'il a gagné 500 millions de dollars, il va mourir du choc. Comment est-ce qu'on règle le problème aux États-Unis? On fait appel à qui? Hein? On fait appel au psychologue. Là-bas, tout marche avec un psychologue. Ils ont dit au psychologue, voilà, la personne a 92 ans, il vient gagner 500 millions, à vous de l'annoncer à votre nouvelle, c'est votre métier. Donc le psychologue est assis avec un verre de café, vous la connaissez?
Non, je
vous devinez. Alors, le psychologue il dit, monsieur, c'est un juif le bonhomme, monsieur Weintraub, venez, comment allez-vous? Vous êtes une belle famille, d'où vous venez? Il entreprend, il dit, vous êtes un homme sage, vous avez 92 ans et plein de sagesse de vie, je peux vous demander, poser une question? Il dit, oui, il dit, imaginons vous gagnez 1 million de dollars, comme ça, tout d'un coup. Qu'est-ce que vous faites? Dès qu'un million de dollars, je change de voiture. J'achète un Hammer. Il dit, et si vous gagnez 100 millions de dollars? À 100 millions de dollars, je change de maison. Il dit, maintenant, je vais aller encore plus loin. Imaginons que vous gagnez 500 millions de dollars. Il dit, dans ce cas-là, je partage avec vous. Le psychologue tape une crise cardiaque et il meurt. Voilà, donc, vous avez raison. Les bonnes nouvelles, on les annonce tout doucement. Et les mauvaises nouvelles également. D'où est-ce qu'on appelle Moïse? On les appelle la chaîne. Quand Hachem a dit à Abraham, il dit, Karnet Bincha, prends ton fils. Qu'est-ce qu'il lui répond? Qu'est-ce qu'il répond à Abraham? Ton fils, qu'est-ce qu'il dit? J'en ai deux. Lequel? J'ai Yitzhak et Ishmael. Et Yehidecha, celui qui est unique, il répond, Yitzhak il est unique pour Sarah, Ishmael, il est unique pour Hagar. Asher Ahavta, que tu aimes, qu'est-ce qu'il répond? Moi, je les aime, les deux. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a écrit après? Et Bincha, et Yehidecha, Asher Ahavta, et Yitzhak. Ce n'est qu'au quatrième terme, au quatrième mot, qu'Akadosh Baruch Hu a annoncé à Abraham. Hachem est allé tout doucement. Dès qu'il a entendu ça, c'est écrit le lendemain, Vayashkem Avraham Baboker. Comment on dit se lever en hébreu? Comment on dit en arabe, lève-toi? Kom. Vayakom, on va dire Vayakom Baboker. On va dire Abraham, il s'est levé. Pourquoi c'est écrit Vayashkem? Le verbe en hébreu Vayashkem a une connotation particulière. Les Hashkim veut dire se lever de très très bonne heure. Disons que le jour se lève du côté du mont Moria à 7h du matin, Abraham à 4h du matin était debout. Vayahabosh et Hamo. Il a lui-même posé le bas de l'âne avec ses propres mains. Alors qu'on sait qu'Abraham était immensément riche, il avait une nuée de serviteurs. C'est écrit Ha'ahava Mekalkel et Tachachoa. Abraham a eu un tel amour d'Hachem de sa misère que c'est lui-même qui est allé préparer l'âne du sacrifice pour aller au sacrifice. Alors qu'il avait des serviteurs. Où est-ce qu'on a vu l'inverse? On a vu que Hassin a mais quelqu'un t'a choisi. La haine, elle bouscule l'étiquette et le protocole. Où est-ce qu'on a vu un grand personnage faire lui? Est-ce qu'ils l'ont dû faire par un serviteur? Un peu avant. Un petit peu avant. Pharaon. Pharaon, une semaine après que les ministres se sortis d'Égypte, il a regretté d'avoir ses fils, il est allé, lui, dans les écuries royales, lui-même a pris le char royal, il a attelé à ses chevaux. La Gemara dit comme ça, « Ha-ha-ha-ba, mais quelqu'un t'a choix, l'amour que Abraham eut pour Hachem a bousculé le protocole. Hachem, il me demande de s'exprimer, c'est moi qui vais aller de bon matin, à 4h du matin, dans les écuries, je vais étrier l'âne, je vais le brosser, je vais le faire beau, je vais prendre la selle, on appelle ça le bas chez l'âne, n'est-ce pas? Je le pose sur le dos, je vais le sangler, je vais tout préparer. Je vais préparer le bois du sacrifice. La même chose qu'on a vu chez Pharaon. Hassin a mekalketachor. Il y avait une telle haine du peuple d'Israël que le grand Pharaon mégalomane, il a daigné lui-même aller dans ses écuries au fer. Pour Abraham, c'était une épreuve. Ça, c'était le sacrifice ultime. Mais ce n'est pas ce que Hachem nous demande, puisqu'en réalité, Hachem n'a pas demandé à qu'on sacrifie ça. C'était un test. Il reste que ce geste est tellement exceptionnel qu'il ne nécessite plus un deuxième geste comme ça. C'est pour ça que le sacrifice humain est strictement interdit dans la Torah, que prétendre offrir un être humain à Hachem, c'est considéré pour la Torah comme un meurtre. Et je continue sur ce que Hazal dit, c'est un texte merveilleux, cet Akeda, c'est écrit « Vaikah et ha-ma'achelet ». Avraham, pour sacrifier, trancher la gorge, dit ça, qu'est-ce qu'il a pris ma'achelet? Ma'achelet, c'est un couteau. Comment est-ce qu'on dit couteau en hébreu? Pourquoi c'est pas écrit Vaikah et Asakin? Là aussi, il y a une dracha. Hachamim disent que Hama Achelet vient du verbe les Echol. Alors, quel rapport entre le couteau et l'Echol? Écoutez bien ce que dit une dracha. Le geste d'Abraham Avinu était tellement immense, tellement géant, chez Mikan Ochlim. Le Midrash dit que de ce geste-là, du sacrifice de Yitzhak, toutes les générations mange, s'alimente en mérite du geste d'Abraham. Quel est le jour le plus redoutable pour nous dans l'année, le jour qu'on craint le plus? Rosh Hashanah et Kippour. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On a dit, la grande mitzvah de Rosh Hashanah, c'est quoi? Sonner du chauffard. À quoi fait allusion le chauffard, vous le savez tous? Oui, au din, mais d'où il vient le chauffard? Il vient de l'Akedat Yitzhak. Le jour de Rosh Hashanah, où on va trouver des souhaits, où est-ce qu'on va chercher des mérites? On va les chercher chez Avraham Yitzhak, du mot l'Akeda. Le moment de l'Akeda est tellement immense que de là-bas, au Khlim, toutes les générations mangent, se nourrissent de mérites pour pouvoir se justifier devant Akadosh Baruch Hu. Donc, le haï, le médaber, pardon, le sacrifice ultime, mais ce n'est pas ça qu'Hachem nous demande, c'était la akeda. Ce qu'Hachem nous demande, c'est simplement les korbanot. Voilà cette notion de korban, voilà pourquoi c'est quelque chose d'important, voilà pourquoi le Beit HaMikdash est quelque chose d'important, et voilà pourquoi pendant les 3 semaines, nous, on pleure des disparitions du Beit HaMikdash. C'est évidemment pas seulement les murs qu'on pleure. On n'est pas des esthètes, on n'est pas des gens de musées, de bâtiments et d'édifices. Le Beit HaMikdash était lui où on offrait les korbanot, et les korbanot c'était un peu le régulateur de bracha dans le monde. Ce par quoi on était capable de renverser la vapeur de ce que la Avera était capable d'engendrer. Je vais terminer par un tout petit remez que donna la Hassidoute à propos de Tisha B'Av et de, du moins de Tammuz et de Av. L'ordre du monde, il est contenu dans l'alphabet, n'est-ce pas? L'ordre du monde. Par quoi commence l'alphabet? Aleph, Bet, Gimel, et il se termine à Tav. Le Zohar Kadosh dit que quand Al-Jour a voulu créer le monde, avec, quels sont les outils qui ont permis de créer le monde? Ce sont les lettres de l'alphabet. Quand Hachem a voulu créer, comment on dit une montagne en hébreu? Une montagne, ha. C'est un he et un resh. Hachem a pris un he, il a pris un resh, il les a mis ensemble, et en écrivant le mot ha, la montagne est apparue. Les outils de la création, ce sont les lettres. Les lettres, c'est la parole, c'est l'énergie créatrice. C'est ça que ça veut dire. Donc, il y a un ordre dans les lettres. Quand vous respectez cet ordre, dans l'ordre du monde. Quand vous renversez l'ordre de l'alphabet, vous êtes dans le chaos. L'inverse de l'ordre du monde. Vous remarquerez que les 2 mois de la catastrophe du clan Israël, c'est le mois de Tammuz et le mois de Av. Tammuz, ça commence par un Tav et Av, ça commence par Aleph. On est dans le chaos. On est dans le désordre. On est dans le bouleversement. Les Averot, elles ont renversé l'ordre du monde. Je vous pose une question. Est-ce que pour autant on a plus d'espoir? Tout de suite, la réponse, elle est contenue dans les 2 mois suivants. C'est quoi les mois qui suivent Tammuz et Av? Elul et Tishri. Par quoi commence Elul? Et Tishri, Tav. Elul et Tishri, c'est la possibilité qui est offerte au clan d'Israël de réaménager, de réinstaller un équilibre de l'ordre du monde pour que le monde puisse continuer donc à exister. Le chaos, il engendre les pleurs, il engendre le deuil, il engendre la peine. Elul et Tishri, l'ordre, il engendre l'espoir et l'optimisme. Donc, la mitzvah particulière des 3 semaines, c'est mamash de pleurer. Il y a une mitzvah de pleurer le Horban Baïrichon Baïtcheni, la destruction du premier septembre, pendant Av, Tammuz et Av, Av, le jour de Shabbat étant le sommet, le paroxysme. Pour autant, nous restons optimistes, puisqu'après que Av disparaît, arrivent Elul et Tishri, qui sont les mois de la promesse, les mois de l'espérance, les mois de l'optimisme, et les mois de la vie. Yiratson, nous ne sommes pas encore Tisha B'Av. Bechol Yom HaKel, on dit que tout le monde dans le Beit HaMikdash, on attend Mashiach, Yiratson, qui puisse venir et que ce jour Tisha B'Av devienne le jour de l'inauguration et non pas la direction du Beit HaMikdash, Yiratson.